France Inter. Le 6-9 de l'été. Hélène Roussel.
7h45. Il est de ces voix et de ces combats qui vous changent une société.
Il faut que les promesses électorales soient tenues. On ne se moquera pas de nous comme ça. On nous a promis un débat en priorité. Et maintenant que les élections ont eu lieu, on estime qu'il n'est plus urgent. Or, il n'y a rien de plus urgent au monde pour une femme de pouvoir justement se faire avorter quand elle ne veut pas d'une grossesse. Et ça n'attend pas.
Gisèle Halimi est morte hier, elle avait 93 ans. Annick Cogent, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, grand reporter au Monde. Vous étiez proche de Gisèle Halimi, vous étiez en train de terminer un livre avec elle sur sa vie, ses combats. Ça va s'appeler Une farouche liberté et ça sortira au mois d'août aux éditions Grasset. Alors avant de parler de la militante, de la grande combattante de la cause des femmes, Annick Cogent, vous qui la connaissiez depuis une trentaine d'années, personnellement, intimement, qu'est-ce que Gisèle Halimi représentait pour vous ?
Écoutez, j'ai du mal à dire le mot modèle parce que c'est quelque chose un peu étrange, un modèle, mais en tout cas, une vraie inspiration. Oui, vraiment. Son courage, sa force, sa vaillance, sa lucidité, son entêtement, son engagement viscéral au service d'une cause, de plusieurs causes d'ailleurs, mais disons la cause des femmes en tout cas était peut-être la plus importante. Une honnêteté viscérale, elle n'était jamais au repos, elle était toujours insoumise, insurgée, pas contente. Elle lisait la presse, je la vois encore feuilleter le Monde et s'arrêter à chaque article en disant c'est pas normal, il faut dire quelque chose, faites quelque chose Annick. Je sais, c'est pas facile, c'est pas... Mais enfin, vous êtes journaliste, vous pouvez aussi agir. Et donc il y avait cette injonction à n'être jamais indifférente à quoi que ce soit et en tout cas aux injustices. L'injustice était la grande affaire de sa vie, un engagement presque mystique dans lequel elle avait plongé et qui était né d'une révolte personnelle à l'enfance.
Petit retour en arrière. Ouais. Pour commencer cette enfance, Gisèle Halimi est née en Tunisie. À 10 ans, elle est en grève de la faim pour son droit à la lecture.
Oui,
à 16 ans, elle refuse un mariage arrangé. Elle obtient de faire son droit, devient avocate, part à Paris. On connaît la suite. À quel moment la rebelle devient aussi militante ?
Oh, qu'est-ce que c'est être militant ? On va dire que dès le départ, elle était insoumise et donc dès le départ, elle a voulu lutter avec ses propres armes. Alors, sa grève de la faim a beaucoup fait sourire petite, mais c'était une façon de résister. Voilà. Alors, elle n'a pas été embrigadée dans aucun parti politique. C'était très difficile pour elle. La discipline était difficile. Donc
elle a été apparentée PS. Hein,
elle a été apparentée PS, effectivement, mais elle ne faisait pas partie du Parti Socialiste. Elle a payé très cher, d'ailleurs, parce qu'effectivement, elle a été élue en 1981, elle est restée députée 2 ans et demi, je crois, et ça a été très difficile parce qu'effectivement la discipline de parti lui était juste intolérable et qu'elle a été mise de côté et qu'on avait tous peur, tout le monde avait peur de Gisèle Halimi parce qu'elle allait sortir librement tout ce qu'elle voulait, toujours révoltée et sans accepter aucun oukase d'aucun parti, bien sûr.
Indomptable. Gisèle Halimi, la France la découvre dans la lutte féministe, hein, surtout pour l'IVG. D'abord, 71, le manifeste des 343 qu'elle signe.
Très important. Pourtant, et c'était incroyable qu'une femme comme elle, avocate, signe un manifeste disant « j'ai avorté ». C'était sidérant et bien sûr, elle a été sanctionnée pour ça. Et quand Simone de Beauvoir lui a proposé d'organiser ce texte, donc « nous avons avorté », c'était quelque chose d'ailleurs, on a du mal à imaginer ce que c'était à l'époque de dire ça, de signer un texte comme celui-là. Elle lui a dit « non, Gisèle, évidemment, vous n'avez pas le signé, mais je m'en fiche », dit-elle, « je suis avocate et je vais le signer ». Bien sûr, à la suite de ça, beaucoup de femmes ont signé. Elle a incité beaucoup d'autres femmes à signer ce texte. Et beaucoup de femmes ont eu des difficultés après ça. C'est comme ça qu'est née Choisir. Il fallait bien défendre ces femmes qui n'avaient pas de grand nom, qui étaient des anonymes. Et c'est comme ça qu'elle a créé Choisir, la cause des femmes. Choisir, qui était un beau mot pour elle. L'idée, c'était pas de faire une croisade pour l'avortement. L'idée, c'était d'obtenir pour les femmes le droit de choisir, précisément.
Elle a eu des problèmes, vous dites ? C'est-à-dire qu'elle a eu des problèmes au barreau ensuite.
Ah oui, bien sûr, elle a été convoquée par l'ordre, etc. Elle a eu une sanction, mais elle s'en fichait complètement. Elle était, vous le dites, indomptable.
Tellement qu'en 72, c'est le procès de Bobigny, c'est celui qui ouvrira le champ à Simone Veil pour sa loi sur l'avortement.
Oui.
Ce procès, vous pouvez nous raconter comment Gisèle Halimi l'a vécu ?
Ah, écoutez, comme un engagement viscéral pour ces femmes, pour la jeune Marie-Claire, qui avait 15 ans lorsqu'elle a été violée et qui a avorté avec l'aide de sa maman et des amis de sa maman, ou de plusieurs personnes en tout cas qui ont contribué, qui ont aidé. Et pour Gisèle Halimi, c'était quelque chose d'absolument incroyable, de révoltant. Elle allait évidemment se saisir de ce cas pour en faire un grand procès politique. Et pour en faire un procès politique, c'était pas évident, disait-elle, mais là j'avais tous les ingrédients merveilleux, d'une certaine façon optimale, puisqu'il y avait une héroïne presque qui était la mère de la jeune fille violée et qui avait avorté et qui était d'une intégrité et d'une honnêteté fondamentale et qu'on pouvait effectivement présenter devant un tribunal en disant regardez cette femme, elle a agi pour le bien de sa fille, elle a agi en toute sincérité et cette loi est inique et c'est ça qu'a fait toujours Gisèle Halimi. Et d'ailleurs quand elle a dû prêter serment, elle avait 22 ans, on lui demandait prêter serment, le serment classique de l'avocat, je jure de ne jamais rien faire contre les lois, contre les autorités, de respecter les tribunaux, etc. Oui. Et déjà à 22 ans, elle se disait je ne peux pas signer ça, mais c'est incroyable, il y a des lois mauvaises, je les contesterai. Alors elle dit bon bah ok, elle a prêté serment sous réserve, se disait-elle in petto, parce que le bâtonnier lui avait dit Gisèle, ça suffit, hein, le serment c'est je jure et puis c'est tout. Mais déjà, et d'ailleurs, quand elle est allée plus tard, elle a été députée, l'une des premières choses qu'elle a faites, c'est de changer ce serment. Parce que le serment de l'avocate, effectivement, c'était de défendre, mais de contester la loi. Et ce procès de Bobigny lui a servi à ça.
De prendre la parole pour ces combattantes de l'ombre. Oui. Elle a fait ça aussi, où elle refuse le huis clos, elle en fait une audience politique avec quelques années plus tard, en 78, avec
le procès sur le viol. Oui, à Aix-en-Provence.
C'est sa force. Gisèle Halimi, elle est
c'est
là, sa force.
Elle prend le droit. Elle se saisit du droit. C'est son instrument. Et puis, on va dire, soumission et sa marque de fabrique, et elle va aller au-delà du tribunal. Elle va parler à l'opinion publique. Elle va essayer de secouer la société française.
C'est une avocate qui change les choses.
Oui, c'est ça. Mais elle avait choisi le métier d'avocate pour, on va dire, changer le monde en plaidant. C'est un sacré programme quand même, et c'était une sacrée ambition. Bien sûr que c'était au-delà de la défense de telle ou telle personne qui lui tenait à cœur, bien sûr. Mais bien au-delà de ça, elle voulait bousculer la société, la changer. Elle est injuste, changeons-la. Le droit peut être un instrument au service du plus faible.
Annick Cogent, on a vu hier une longue standing ovation à l'Assemblée nationale,
ouais,
l'hommage
beau.
Appuyé d'Emmanuel Macron. Est-ce que Gisèle Halimi était devenue consensuelle ?
Je pense que tout le monde était obligé de reconnaître ce qu'elle avait apporté à toute la société. Quand elle disait, vous savez, on fait avancer le droit des femmes, quand on fait avancer la cause des femmes, c'est toute la société qui en bénéficie. C'était pas l'ennemi des hommes. D'ailleurs, elle a eu la chance d'être accompagnée toute sa vie par un homme, le seul, disait-elle, qu'elle ait rencontré, qui était féministe, qui était son mari, et qui était juste formidable. Il s'appelait Claude Faux, qui avait été le secrétaire de Sartre, d'ailleurs. Et donc, oui, d'une certaine façon, tout le monde, je crois, est obligé de reconnaître que tout ce qu'on lui doit, tout ce que la société française et ce que les femmes lui doivent, mais aussi les hommes, je le pense, exactement comme Simone Veil. Oui, c'est une icône. Oui, elle peut d'une certaine façon devenir consensuelle. C'était pas du tout ce qu'elle cherchait. Elle n'avait pas peur de répondre à tout le monde, d'attaquer, d'embrayer dans beaucoup de combats. Mais je crois que tout le monde est obligé de reconnaître que vraiment, c'est une héroïne française maintenant.
Quel regard portait-elle sur le combat des femmes d'aujourd'hui ?
Elle le suivait d'un peu plus loin, vous savez, parce qu'elle n'était pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai quelques fois, je me suis assise à côté d'elle en lui montrant mes Twitter. Regardez ce que c'est, hashtag MeToo. Et elle voyait pas très bien. Oui, ces femmes disent MeToo. C'est un peu facile de dire moi aussi, moi aussi. Alors, elle était heureuse, bien sûr, de voir qu'il y avait des ferments de révolte un peu partout et que les jeunes filles, maintenant, n'ont plus honte de se dire féministes. Et elle leur disait, d'ailleurs, parmi les choses qu'elle a envie
Ça a été longtemps un mot insulte.
Mais c'était fou. Ou bien beaucoup de femmes disaient, je ne suis pas féministe, mais enfin, je trouve que c'est quand même pas tout à fait l'égalité entre mes femmes. Eh bien, alors, vous êtes féministe. Si vous trouvez, un, qu'il y a inégalité, deux, qu'on n'y est pas, eh bien, ça veut dire que vous êtes féministe. Et elle trouvait que c'était un mot magnifique. Et donc, bien sûr, que ça pouvait que la réjouir de voir qu'il y avait des jeunes filles, maintenant, 15 ans, 17 ans, n'ont plus honte. Au contraire, c'est même ringard de ne pas être féministe. Ça lui plaisait. Et en même temps, elle trouvait que ça n'allait pas assez loin. Ça suffit pas de dire, moi aussi, m'est arrivé quelque chose de terrible. Il faut lutter. Il faut lutter avec le droit. Il faut lutter avec des lois. Il faut être solidaire. La sororité était un mot très important pour elle.
Une insoumise, une battante, ne vous résignez jamais, c'est son message à nous, ses petites sœurs.
Ouais, ne vous résignez pas, battez-vous, soyez ensemble, solidaires. Prenez conscience de la force que vous avez quand vous êtes toutes ensemble. Ça, c'est fondamental. Et puis, utilisez le droit. C'est pas seulement manifester, être dans la rue. Elle l'a fait, elle aussi. Mais utilisez la justice pour faire bouger les choses. Ayez le courage de tenir auprès de votre conviction. Vous savez, sa phrase fétiche était toujours cette phrase de René Char. Ce qui vient au monde pour ne rien changer ne mérite ni égard, ni patience. Eh bien, voilà. Les filles, allez-y. On attend la révolution. Il y a eu des petites révoltes. Ce qu'il faut, c'est une grande révolution, une révolution des mœurs.
On terminera sur ce message. Annick Cogent, merci pour votre témoignage ce matin. Livre Entretien avec Gisèle Halimi, une farouche liberté. Ce sera son titre et ça sort le 19 août aux éditions Grasset. Merci encore, bonne journée à vous.
Merci à vous.